On va continuer dans l'écriture, dans Exode. Les plannings de prédication sont faits 3-4 mois avant. Hein. Chaque prédicateur connaît à peu près le texte sur lequel il doit prêcher. Et c'est, je ne crois pas au hasard, hein. Je crois que le calendrier de ce témoignage et de ce passage aujourd'hui qui va parler justement de la souffrance, hein, de la souffrance de ce que le peuple va endurer alors qu'il s'attendait à la délivrance. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous avons commencé à toucher les 5-6 premiers versets de Exode 5 qu'on va relire ensemble. Je vous invite à prendre Exode chapitre 5. Nous avons vu la semaine dernière les versets 1 à 5. Et aujourd'hui, nous verrons du verset 6 jusqu'à la fin. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas très grave. Je m'arrêterai et puis je reprendrai ça pour une autre prédication. Ce que nous avons vu la semaine dernière, après que le peuple était favorable, zélé avec Moïse et Aaron, voilà, après ce fameux face-à-face hein, qu'on a développé sur plusieurs prédications, les voilà, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ?» Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de nous faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Voilà ce que nous avons vu la semaine dernière. On a vu que ce verset chapitre 5, 6, ça va être un vrai combat entre, un début d'un combat en tout cas entre Dieu et Pharaon. On va, hop, je vais remettre le PowerPoint. On va, voilà. Un combat entre Dieu et Pharaon. Ça a commencé, on l'a vu la semaine dernière, mais ça va continuer encore aujourd'hui. Et puis, un peu le titre, je ne sais pas si ça peut vous arriver dans votre vie, mais les choses se compliquent et tout le monde semble chercher un coupable. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les versets 6 jusqu'à la fin du chapitre. Le combat entre Pharaon et Dieu, c'est cette image de deux mondes qui s'opposent. Hein, j'avais développé ça la semaine dernière. Il faut bien comprendre qu'on est sur deux mondes qui s'opposent. Pharaon veut absolument garder le contrôle sur Israël. Il veut ça. Mais il y a une problématique, c'est qu'Israël est un enfant légitime de Dieu, pas de Pharaon. Dieu avait dit, on l'avait vu hein, dans les prédications précédentes, hop. Le suivant, non, je veux pas. Voilà. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël appartient à Dieu. Mais Pharaon ne l'entend pas de cette façon. Pharaon ne l'entend pas du tout de cette façon. Et on vient de le lire, il a refusé la demande des ambassadeurs de l'Éternel. Les ambassadeurs de l'Éternel sont les représentants de Dieu, et ici en l'occurrence c'est Moïse et Aaron. Et Pharaon est clair avec eux. Israël ira nulle part. Israël m'appartient. Et en fin de compte, il y a un vrai combat entre Dieu et Pharaon. C'est pas entre Pharaon et Moïse, ou entre l'Égypte et Israël. C'est entre Dieu et Pharaon, entre deux mondes qui s'opposent. Qui va remporter Israël, en fin de compte? Qui va conserver ou qui va avoir la même mise sur Israël? On avait aussi vu la semaine dernière quelque chose qui était très important, le nom de l'Éternel. Hein, le nom de l'Éternel, il n'y a rien qui existe en dehors de ce que je décide. Je suis celui qui suis. Nous existons parce que Dieu est l'Éternel. Votre vie dépend de l'Éternel. Mon nom, il avait dit, pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Mais il y avait une grande problématique dans l'équation, c'est que Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Et le paradoxe là-dedans, ou l'ironie dans tout ce passage, c'est qu'on ne connaît jamais le nom de Pharaon. Le roi d'Égypte, Pharaon, le roi d'Égypte, Pharaon. alors que le Dieu d'Israël, son nom c'est l'Éternel. Combien de fois dans l'Écriture vous allez voir l'Éternel est mon nom, l'Éternel est mon nom. Mais cet homme a méprisé le nom du Dieu d'Israël, et voilà où nous sommes arrêtés la semaine dernière. Ce matin, on va continuer à voir ce face-à-face où Moïse et Aaron viennent pour voir la libération du peuple. Ils viennent vraiment pour voir la libération du peuple. Ils sont tout zélés, tout feu de flamme, ainsi au nom de l'Éternel. On a vu que c'était vraiment un propos prophétique. Ils arrivent, et puis là, les amis, ils vont voir quelque chose de terrible. Ils vont voir l'amplification de la souffrance. Vous arrivez avec beaucoup de zèle, où Dieu dit, je vais délivrer le peuple. Ils y vont tous zélés devant Pharaon. Et on va voir que c'est la souffrance qui va augmenter. Les choses se compliquent. Ce n'était pas au programme. Alors tout le monde va se mettre à chercher un coupable. Tout le monde va se mettre à chercher un coupable. On va voir que Pharaon accuse le peuple, Moïse et Dieu. On va voir que le peuple est sous pression, il souffre. On va voir que les commissaires juifs accusent Pharaon, puis Moïse et Aaron. Et on verra que Moïse accuse Dieu. Verset 6 à 8. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Mes amis, en ce jour-là, dès que l'échange est fini avec Moïse et Pharaon, en ce jour-là, Pharaon n'attend pas pour oppresser le peuple, n'attend pas pour mettre une charge encore plus sur le peuple. Il donne ses consignes le jour même. Le peuple, d'après ce que je comprends, devait produire le même nombre de briques par jour, mais avec un nouveau matériau. Ils avaient la paille qui leur était même fournie pour fabriquer ces briques apparemment de qualité. Mais maintenant, vous allez vous débrouiller pour produire le même nombre de briques, mais dans des conditions bien plus difficiles et sans ce matériau. Cela va produire de la fatigue physique, une pression psychologique sur les commissaires du peuple. Les commissaires, c'était, vous aviez Pharaon, vous aviez les inspecteurs, donc les chefs de Pharaon, qui eux donnaient des ordres à des chefs juifs, qui eux devaient appliquer ça au peuple. Et donc ces commissaires juifs reçoivent ces ordres de ces inspecteurs égyptiens qui arrivent de Pharaon, et ils doivent faire appliquer ces ordres-là. Donc on peut déjà commencer à sentir la petite pression qu'eux vont subir, qu'ils vont faire subir à leur peuple, et les tensions qui vont pouvoir peut-être commencer à arriver. Mais en tout cas, à travers ces consignes qu'on voit ici de Pharaon, on voit que c'est un tyran. C'est un tyran. Le monde est un tyran. Quelle que soit dans l'histoire, la pensée de ce monde, la pression de ce monde est tyrannique. Et ce combat contre Dieu a des répercussions sur le peuple de Dieu, parce que le combat qu'est en train de mener Pharaon, c'est contre l'Éternel. C'est contre l'Éternel. Et à travers ses travaux, un des objectifs de Pharaon est de désolidariser le peuple de ces gens qui sont au-dessus d'eux, et surtout de les désolidariser de qui ? De Moïse et de Aaron. C'est un des objectifs qui est glissé à travers ça. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que Pharaon ressemble à son maître, et son maître, c'est Satan. Pourquoi j'avais dit ça ? J'avais dit qu'on ressemble à ce qu'on reflète, et lui, il va refléter encore ici. Il fait quoi ? Il accuse, il ment, il veut créer la discorde. Voilà un certain trait de caractère de notre ennemi. Il accuse, il ment, il veut créer la discorde. Il déteste l'unité. Ici, dans le texte, on voit que Pharaon accuse le peuple d'être des paresseux. C'est une accusation mensongère. C'est une accusation mensongère. Le peuple n'est pas paresseux. Le peuple travaille depuis 400 ans pour l'Égypte, pour différents pharaons. Le peuple n'est pas paresseux. Le peuple n'a rien demandé. La demande vient de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Et en plus, avec une demande, une requête. Le peuple n'a rien demandé. Donc, il accuse le peuple. Il ment. Et puis la deuxième, c'est qu'il dit, Pharaon dit que le peuple crie « Allons offrir des sacrifices !» C'est encore une accusation mensongère. Le peuple crie, c'est vrai, le peuple il crie. Mais il crie à Dieu, à cause de sa servitude. Le peuple souffre. À aucun moment dans le texte, on voit que le peuple a crié pour dire et revendiquer de sortir. C'est juste Moïse et Aaron qui viennent faire cette requête. Regardez ce que disait le Exode 2:23 qu'on a vu il y a quelques mois en arrière. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Alors oui, ils poussaient des cris, mais ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Ils criaient de souffrance. Ils ne criaient pas de vouloir partir faire quelque chose sur 3 jours. Et Pharaon continue ses accusations au verset 9. Il accuse Dieu de menteur. Regardez le verset 9 avec moi. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Pharaon veut occuper le peuple par l'augmentation du travail dans le but qu'il n'écoute pas les ambassadeurs de Dieu, dans le but qu'il n'écoute plus Moïse et Aaron. Pharaon accuse Moïse et Aaron de dire des mensonges. Votre Dieu est un menteur, vu qu'ils sont les ambassadeurs, les représentants de Dieu. Donc, en accusant Aaron et Moïse de dire des mensonges au peuple, il est en train d'accuser directement Dieu. Pharaon a envie de mettre le doute dans la tête des Israélites. Il vous mente, il vous mente. Il veut que le peuple se retourne contre ses responsables. Il veut tout simplement les éloigner de l'Éternel. Il veut les éloigner de l'Éternel. Votre Dieu ne vous délivrera jamais. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Écoutez pas ce Dieu de Moïse et d'Aaron qui est en train de dire qu'il va vous délivrer. Mais vous êtes dingue, il ne vous délivrera jamais. C'est moi le maître. Je suis votre maître, vous m'appartenez. Qui est l'Éternel face à moi? Qui est l'Éternel? Je ne le connais même pas celui-là. Je suis votre maître. Et Pharaon ne veut pas perdre le contrôle sur Israël. Ce monde ne veut pas perdre le contrôle sur nous. Ce monde veut nous oppresser. Ce monde veut nous occuper à autre chose. Ce monde veut nous dire, les paroles de Dieu sont mensongères. Ton Dieu, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, Dieu n'est plus là. Quel mensonge. Quel mensonge. Pharaon est en train de dire, les paroles de Dieu sont des mensonges qui vous empêchent de vous conformer à ma volonté. Et la pensée de ce monde n'a pas changé pour nous ce matin. Les paroles de Dieu, des fois, nous pouvons entendre ça de ce monde, de façon différente, très subtile. Les paroles de Dieu sont des mensonges qui vous empêchent de vous conformer aux attentes du monde dans lequel vous vivez. C'est très subtil. Tu es sûr que Dieu a dit vraiment ça? Ah, ça me fait penser à quelque chose, ça. Dieu a-t-il réellement dit? Mes amis, rien de nouveau sous le soleil depuis Genèse chapitre 3. Et on reproduit ça tout le long de l'histoire. Avec Israël et puis avec l'Église. Chaque jour, nous sommes confrontés à des pensées et des réflexions pour nous faire douter des paroles de Dieu. Chaque jour, dans votre travail, dans votre foyer, dans ce que vous écoutez, dans les médias, dans tout votre quotidien, nous sommes confrontés à des pensées et des réflexions pour nous faire douter des paroles de Dieu. Ce monde est très fort pour amener le doute et retourner nos pensées. Il est fort pour ça. Mais Dieu a promis aux Israélites de les délivrer. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, vous connaissez l'histoire, hein ? Dieu va le faire. Dieu va le faire. Parce que c'est un Dieu de promesses, un Dieu qui ne ment pas. En fin de compte, Dieu, il est la vérité par nature. Nous, nous luttons pour dire la vérité, parce que ce n'est pas notre nature. Mais Dieu, il est vérité par nature. Il est vrai que Dieu, par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que Dieu ne va pas être dans le même timing que le timing des Israélites. Et vous voyez, quand Dieu n'est plus dans mon timing, je ne sais pas vous, mais ça devient compliqué. Dieu, tu as dit ça, mais pourquoi ça ne s'est pas passé au moment que moi je l'attendais en fin de compte? N'est-ce pas? Et nous allons voir qu'au lieu de faire confiance au Créateur, au lieu de faire confiance aux paroles de Dieu, le peuple va remettre en question ce que Dieu a dit en cherchant quoi? Un coupable. Et je tiens à préciser que je ne sous-estime absolument pas dans la prédication et dans ce passage la souffrance des Israélites. C'est très, très facile, hein, de prêcher et de leur mettre des coups, de faire comme Pharaon, leur mettre encore des coups, les pauvres. Non, ils sont pleins de souffrance. Ils sont pleins de souffrance, ces hommes et ces femmes. Mais quand vos attentes de délivrance se transforment en une souffrance intense, on ne prend plus garde aux promesses de Dieu. Mais c'est terrible. Vous êtes là dans une pleine attente. Dieu est venu se révéler pour vous délivrer et on voit une souffrance qui augmente, plus que ce qu'on avait avant. Mes amis, cela peut nous arriver. Hein. Cela peut m'arriver, cela m'est déjà arrivé. De lire des promesses de Dieu, de voir que ça va... Ah yes! Et puis dire, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est plus difficile maintenant? Alors tu... Hein? Ça nous arrive? Versets 10 à 13. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car on ne retranchera rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, « Achevez votre tâche jour par jour comme quand il y avait de la paille. » Ce qui est intéressant dans ce face-à-face entre Dieu et Pharaon, c'est qu'il y a des expressions qui vont être parallèles. Vous vous souvenez, au verset 1, Moïse et Aaron, ils disent « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu ». Et c'est intéressant que maintenant dans la bouche de ces ambassadeurs, mais de l'Égypte, « Ainsi parle Pharaon ». Un combat entre Dieu, mes amis. Les deux prétendent gouverner. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu et Pharaon veulent à peu près la même chose. Ils veulent Israël, mais on va aller un peu plus loin. Ils veulent que Israël le serve. La question, c'est qui est notre maître? Qui je vais servir? Quel maître je sers? Ça va être une vraie réflexion. Et ici, on voit que les chefs des travaux de Pharaon viennent annoncer la mauvaise nouvelle. On est en train de leur dire, vous allez vous débrouiller avec un nouveau matériau. Et au verset 12, ils sont allés chercher, on appelle ça de la chaume, pour remplacer la paille. Et apparemment, j'ai lu dans les livres, le processus était plus compliqué et de moins bonne qualité. Donc, c'est absolument normal qu'ils n'arriveront pas à remplir le quota ou les exigences de Pharaon. Et en fin de compte, les commissaires israélites, quand ils ont entendu ça, ils savaient que ça n'allait pas être possible. Ils savaient que ça n'allait pas être possible. Ils savaient que demander quelque chose ça au peuple était irréalisable en fin de compte. Et ils allaient se prendre la pression, mais ils allaient devoir mettre aussi la pression sur leur peuple. Les inspecteurs égyptiens mettent sous pression les commissaires qui étaient juifs. C'est ce que le texte dit. Les inspecteurs égyptiens mettent sous pression les commissaires qui étaient peuple juif. Ils disent, les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme s'il y avait de la paille. Combien d'entre vous connaissent cela au travail ou à l'école, d'être sous pression par ce monde qui veut nous faire souffrir. Nous connaissons ça, d'être sous pression. La pression est différente que celle qu'ont subi les Israélites, c'est sûr. Mais ce monde nous impose une pression afin qu'on ne prenne plus de temps. Ce monde nous impose une pression afin qu'on ne prenne plus le temps d'écouter la voix de l'Éternel. Voilà la réalité de notre quotidien en fin de compte. Même la pression dans notre foyer. La pression que des fois nos enfants ont scolairement qui reviennent sur nous-mêmes en tant que parents. La pression est là au quotidien dans notre monde. Et ce monde nous impose une pression afin qu'on ne prenne plus le temps d'écouter la voix de l'Éternel. Et le diable sait que s'il met le monde sous pression, le monde n'aura pas le temps d'écouter les paroles de l'Éternel. Parce qu'il va se focaliser sur sa souffrance. Il va vouloir trouver des coupables. Et du coup, ça va amener des querelles. Il veut que le monde se détruise. Ce monde nous impose un tel rythme que l'Église de Jésus-Christ perd la place qu'elle devrait avoir dans les cœurs des chrétiens. Alors soyons reconnaissants d'être là ce matin. C'est une grâce, parce qu'il y aurait tant de raisons de dire, écoute, moi je suis fatigué de ma semaine. Je suis fatigué de ma semaine. Il y aurait des bonnes raisons de dire, je sais que de se lever tous les matins à 6 heures, et des fois de rentrer pas avant 20 heures, et qu'on est encore sous pression, et qu'on va se coucher tard, et que le lendemain il faut recommencer. C'est une vie sous pression. Et on pourrait se dire, Études bibliques, rien de prière, culte. Ah, je suis fatigué, je peux mettre ça en... après. Et le diable est très fin. Et il va vous mettre ça dans votre tête. Il va vous faire rentrer ses mensonges dans votre tête. C'est une réalité, il les met dans ma propre tête en tant que pasteur. Alors il va les mettre aussi dans votre tête. Il faut combattre contre ça. C'est sa tactique. Il faut combattre contre ça. Parce qu'il va nous proposer du divertissement pour nous faire croire qu'on va être reposé. Et c'est un autre mensonge. Et un autre sujet que je ne viendrai pas aujourd'hui là-dessus. Pharaon a dit que l'on charge au travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Pharaon représente celui qui veut faire souffrir le peuple de Dieu et l'éloigner de Dieu. La pression de ce monde veut nous épuiser pour ne plus avoir d'énergie pour l'éternel. Ça, c'est vraiment ce que... Hop. Je reviendrai là-dessus après. La pression de ce monde veut nous épuiser pour ne plus avoir d'énergie pour l'éternel. Combien d'entre nous, et je m'inclus dedans parce que c'est les réflexions que je vous porte, c'est celles que j'ai eues moi dans ma propre vie. Combien d'entre nous ont dit « Je suis trop fatigué pour ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui ?» Combien de fois ça vous est arrivé ça ?« J'ai plus de force. » Combien d'entre nous ont dit « Je suis trop fatigué pour m'arrêter de prier ?» Combien d'entre nous ont dit ça ? Combien d'entre nous ont dit « Je suis épuisé pour persévérer dans la communion fraternelle ?» C'est une réalité de nos vies. Alors mes amis, Pharaon n'est plus là, mais la pensée de Pharaon est toujours présente aujourd'hui. Et on doit combattre contre cela. Parce qu'elle va nous absorber. Que l'on charge au travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Rien de nouveau sous le soleil. Satan ne veut pas qu'on prenne du temps à écouter des paroles de vérité. Alors il va nous occuper, il va faire en sorte que nos occupations soient épuisantes. Satan veut nous faire croire que lorsque Christ dit « Je vous donnerai du repos », Christ ment. La parole de Dieu dit ça. Christ dit « Je suis là pour vous donner du repos. Mon joug à moi, il est léger. Pourquoi vous allez mettre votre tête sous d'autres joues ?» Et nous le faisons par nous-mêmes. Nous sommes fatigués de notre journée, de travail, je parle bien de travail, et nous sommes capables de passer 4 heures des fois sur des choses ou 3 heures sur des choses qui vont plus nous fatiguer que aller chercher notre repos en Jésus-Christ. On est bizarre quand même. Hein? Et après, on dit on est encore plus fatigué. L'ennemi le fait déjà. Pourquoi vous laissez votre chair aller encore plus loin? C'est là qu'il faut mortifier la chair. Et vous en avez la capacité parce que le Saint-Esprit vit en vous. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez déjà être fatigué par votre vie de tous les jours qui est épuisante par la pression de ce monde. Mais si votre chair, vous lui dites, elle vous fait croire que ça va vous reposer, mais que c'est un mensonge, et que vous remettez cette charge qui va vous épuiser encore plus, la pression de ce monde plus votre chair qui vous met encore une pression, mais vous allez craquer. Par contre, si vous avez la pression de ce monde, qui est une réalité de tous les jours, mais que vous savez que votre repos est en Christ et que vous allez vous décharger sur lui, vous allez voir que la vie va être un peu différente. Je ne dis pas facile, mais différente. Mettre du temps à part avec et pour Christ repose notre âme. Mes amis, mettre du temps à part avec et pour Christ repose notre âme. Versets 14 à 16, on continue notre histoire. Maintenant, ils vont prendre des coups. Ils vont prendre des coups, c'est les commissaires des enfants d'Israël. On bâtit même les commissaires d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avons-nous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Vous êtes bien malin, vous. On n'a plus de paille, il faut qu'on aille chercher de la chaume. Il n'y a pas de qualité, ça prend plus de temps. Les commissaires d'Israël allèrent se plaindre à qui ? À Pharaon, accusation, et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On veut te servir, nous. On ne donne point de paille à tes serviteurs et on nous dit « Fais des briques et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Ces hommes vont prendre des coups. Ces hommes vont prendre des coups. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables de la lenteur du travail. Alors le texte n'en parle pas, mais si vous prenez des coups à cause d'autres, quelle va être votre réaction? Si vous prenez des coups à cause de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous allez faire? Notre réflexe naturel d'être humain. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va aller se plaindre. On va aller se plaindre, on va accuser. Ça va être notre réflexion naturelle. Vous allez leur mettre aussi encore plus de pression. Vous êtes sous pression, vous prenez des coups. Donc, vous en avez marre, vous allez mettre les autres encore plus sous pression. et vous allez vous plaindre et accuser. Et si vous observez bien, la tension va monter entre les Israélites. Il va falloir trouver un coupable. Et Moïse et Aaron ne vont pas être très loin dans quelques instants. Pharaon veut que le peuple se retourne contre Moïse et Aaron. Pharaon veut que le peuple abandonne cette idée de se confier en l'Éternel. Et il va insister. Il veut les désolidariser des responsables. Moïse et Aaron et de l'Éternel. Alors, Pharaon veut que le peuple abandonne cette idée de se confier en l'Éternel. Exode 5, 17 à 18. On continue notre histoire. Pharaon répondit à ces gens-là, qui viennent, hein, qui se plaignent face à lui. Vous êtes des paresseux. Il revient à ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous êtes des paresseux. Des paresseux, il insiste bien dessus. Mensonge. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Il reprend encore ce qu'il a dit au départ. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Aucune compassion, aucune empathie. C'est un tyran, Pharaon. Ce monde est un tyran. Il est inflexible. Pharaon ne veut rien entendre. Et lui, mes amis, contrairement à l'Éternel, il n'a pas un regard bienveillant. Et il ne va pas aller descendre pour prendre du temps avec eux. Si tu souffres, c'est que tu l'as cherché. Voilà sa phrase. Si tu souffres, c'est que tu l'as cherché. La situation s'aggrave. Laisse tomber l'Éternel, laisse tomber tes deux responsables qui valent rien, qui font que mentir, et suis-moi, obéis-moi. Voilà la pensée de ce monde. Voilà la pensée de Pharaon. Et la situation s'aggrave. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux. Vous m'étonnez. Vous prenez des coups, on ne vous écoute pas, il n'y a rien pour être dans la joie. Hein. Rien du tout. Et vous ne pouvez même pas démissionner. En disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, donc ils viennent d'accuser Pharaon, de se plaindre à Pharaon, Moïse et Aaron. Ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. C'est violent, hein ? C'est violent comme parole. L'attente de la promesse de Dieu a mis leur confiance à l'épreuve. Leurs plaintes ont démontré qu'eux aussi ne connaissaient pas si bien l'Éternel que ça. Ces hommes expriment leur souffrance en fin de compte. Ici, ils sont tout simplement en train d'exprimer leur souffrance. Ils commencent à ressembler à Pharaon. Ils accusent et ils disent des mensonges. Eux aussi sont en train d'accuser des mensonges. Moïse et Aaron n'ont jamais eu l'intention de mettre une épée dans les mains des Égyptiens pour les faire périr. Jamais. À aucun moment, Moïse et Aaron, ils ont dit, allez, tiens, Pharaon, pour te filer une épée, tout ça, vas-y, fracasse le peuple. Jamais. Mais la souffrance nous fait verbaliser des choses. Dans la souffrance, nos ressentis prennent le dessus et nos paroles peuvent devenir très violentes. Mes amis, apprenez. Nous savons, si vous êtes déjà passé par la souffrance un peu, c'est une réalité de la vie ça. Dans la souffrance, nos ressentis prennent le dessus et nos paroles peuvent être violentes. Et ici, c'est des paroles très 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 violentes qu'ils sont en train de prendre. Les paroles que nous avons vues ici, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge, vous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Alors que quelques jours avant, ces mêmes personnes ont dit ceci. Et le peuple crut, on est juste quelques jours avant. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël qui avaient vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. La souffrance arrive. La souffrance inattendue. Le timing de Dieu n'est pas leur timing. Vous avez vu comment on peut vite basculer quand la souffrance arrive? Le ressenti, la violence qu'on peut exprimer? On est fragile, hein? On est très fragile. Les circonstances de vie peuvent nous faire basculer très rapidement. D'où l'importance de connaître Dieu afin de rester ferme face à l'adversité. Quand Dieu n'agit pas dans notre timing, quelle est notre réaction? Quand Dieu n'agit pas dans notre timing, quelle est notre réaction? Notre premier réflexe, c'est de trouver un coupable. C'est de trouver un coupable. Et vous savez, Satan est souvent mentionné le premier chez les chrétiens. Puis, quand on a accusé Satan, on a un deuxième réflexe, nous les chrétiens. On veut prendre les choses en main. Quand les choses ne se passent pas, qu'on est dans la souffrance, ça ne se passe pas comme nous, voilà nos réflexes. Mais ces réactions, je dirais, peuvent être normales, mais montre encore une fois qu'on a besoin de grandir dans l'amour de la connaissance de Christ. Quand je réagis comme cela, et je réagis encore comme cela, j'arrive à la conclusion, mais pourquoi je fais encore comme ça? C'est une vraie question. Hein, on va refaire un peu d'histoire par rapport à ça. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Satan ou Dieu? On est d'accord, c'est Dieu. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, pourquoi? Pour faire éclater sa gloire. C'est Dieu qui agit, et il a ses raisons. Dieu avait dit, c'est moi qui endurcis le cœur de Pharaon, et il ne vous laissera pas partir. Dieu avait dit les choses, il avait annoncé ça. Alors c'est vrai que Dieu n'avait pas prononcé qu'il y aurait de la souffrance. Mais mes amis, si Pharaon est endurci et qu'il ne te laisse pas aller, il ne va pas t'offrir du repos, hein? C'est une réalité. La semaine dernière, j'ai donné l'exhortation de grandir dans cet amour de la connaissance de Christ. Si on ne connaît pas bien l'Éternel, nous ne pourrons pas lui faire confiance dans les situations difficiles de la vie, dans des situations où nous sommes déstabilisés, parce qu'on ne comprendra pas ce qu'il est en train de faire. Et du coup, on va accuser Satan, parce que ça ne va pas comme on veut. Ensuite, on va leur prendre les choses en main. Alors que Dieu reste souverain, il est en train d'éprouver. Je ne parle pas de la souffrance liée des fois à nos propres péchés. Je parle vraiment de cette souffrance qui vient extérieure, qui est indépendante au peuple, et que nous allons sûrement vivre aussi, et que nous vivons sûrement. Comment toi qui es un Dieu bon, compatissant et bienveillant, un Dieu qui promet de délivrer ton peuple, comment se fait-il que la souffrance augmente? Comment se fait-il que tu laisses ton ennemi nous faire du mal à travers Pharaon? Où est ton amour dans tout cela? Où est ta souveraineté dans tout cela? Des vraies questions qu'on se pose quand on est dans des situations de souffrance. On accusera Satan ou d'autres personnes alors que Dieu est en train de nous éprouver pour faire éclater sa gloire, pour émonder des choses en nous. Ça s'appelle l'école de Dieu. Et Moïse est à l'école de Dieu en ce moment-là. Il va apprendre des choses. On finit avec le verset 22 et 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» C'est violent, hein ?« Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Voilà la conclusion de cela. Moïse, le texte dit retourne vers l'Éternel, mais en hébreu c'est plutôt Moïse se tourne vers l'Éternel. Moïse prie. C'est violent comme prière, mais il prie, il exprime sa souffrance. Il est en train de verbaliser sa souffrance à travers ses questions. Moïse et Aaron ne sont pas retournés vers Pharaon pour traiter le problème. Ils sont partis vers Dieu. En tout cas, Moïse est parti vers Dieu. Mes amis, Moïse, il est au bout du rouleau, là. Il est au bout du rouleau. Il exprime son incompréhension. Il ne s'attendait pas que la requête de Pharaon allait provoquer tant de souffrances. Et Moïse remet en question la stratégie de l'Éternel pour obtenir la libération des Israélites. Pourquoi plus de souffrances, Dieu? Pourquoi? Je suis arrivé au nom de l'Éternel avec une attente de voir une délivrance immédiate. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les choses s'aggravent. Vous comprenez la frustration et l'amertume à l'égard de celui qui a promis cette délivrance? On peut avoir, vous promettez quelque chose et tout l'inverse arrive. La frustration et l'amertume peuvent vite arriver dans nos cœurs humains. Au verset 22, Moïse accuse Dieu de faire du mal au peuple. C'est ça, hein? C'est ce qu'il dit. Quand on souffre, il y a une chose qu'on a plus, c'est la lucidité. C'est la réalité, hein? C'est comme ça. Et ici, Moïse s'exprime sans réfléchir, sans lucidité. Sa théologie est bousculée par les circonstances. Et notre théologie peut être bousculée par les circonstances. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. On a entendu aussi le témoignage de Sarah qui montre ça. Moïse est arrivé à une conclusion erronée. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Au lieu de trouver en Dieu la force de surmonter cette épreuve, Moïse accuse Dieu. Moïse accuse Dieu. Mais ce qui est beau, c'est qu'au verset 23, il se corrige rapidement. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu les images de ce qui s'est passé en Espagne dernièrement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Valence? Je n'avais pas vu ça. Et dimanche soir, j'ai regardé un peu les infos, ou lundi soir, je ne sais plus, j'étais avec Steph. Et je peux vous assurer, je n'étais pas du tout insensible ni indifférent. J'avais même envie de pleurer. J'ai vu des scènes, j'avais envie de pleurer. Je dis à Steph, mais C'est terrible. Je suis convaincu de la souveraineté de Dieu. Mais cela n'empêche qu'il y a une sensibilité profonde face à la souffrance. Et si vous avez vu ces images, le roi et la reine d'Espagne ont décidé d'aller auprès du peuple. Ils ont été reçus par des insultes et de la boue. Le roi et la reine n'avaient aucun contrôle sur la nature. Et politiquement, ils n'ont pas autant de pouvoir que cela. Mais un cœur en pleine souffrance manifeste bien souvent de la colère. Et la souffrance de ces gens cherchait des coupables. Il y a eu des mots comme « assassin » qui ont été prononcés. C'est violent. Et voyez le visage de ce roi, le visage de cette reine terrassée. Je pense qu'ils souffraient. Hein. Moi, j'ai vu les images. Ils souffraient vraiment. Ils n'étaient pas là pour faire de la com' avec la caméra. Moi, j'y crois pas une seconde. Cette femme, elle était pleine de souffrance en voyant cette souffrance. Et elle est accusée. Elle reste là. Quand on souffre, nous perdons la lucidité. Et je pense que le roi et la reine n'en veulent pas au peuple, n'en veulent pas à ces gens-là. N'en veulent pas, ils disent. Qu'on ne peut pas tout comprendre, parce qu'ils vivent peut-être pas ça. Ils étaient là, il y avait de la compassion, de l'empathie qui était là. Et quand on souffre, nous perdons de la lucidité. On est envahi par tellement d'émotions. Et c'est ce qui arrive à Moïse au verset 22. Mais au verset 23, Moïse se corrige. Il dit, Pharaon a fait du mal à ce peuple. Par contre, il dit, Seigneur, tu n'as pas délivré ton peuple. Parce que pour Moïse, l'étape de la souffrance ne faisait pas partie du programme. Cela nous arrive. La souffrance, en tant que chrétien, parfois ne fait pas partie du programme dans notre tête. Moïse va devoir apprendre que Dieu tient fidèlement ses promesses, notamment celles faites avec Abraham. Sarah l'a verbalisé un peu dans son témoignage, et je pense que c'est très juste ce qu'elle a dit. Moïse ici regarde aux circonstances, il ne regarde plus au caractère de Dieu. Dieu lui avait dit quelque chose de très 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 fort, et j'aimerais que vous reteniez ça parce que c'est une vérité pour nous en tant que chrétiens. Dieu lui avait dit, je serai avec toi, malgré la dureté de cœur de Pharaon. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez de plus que l'Éternel soit avec nous ? Vous savez, ce qu'il y a de plus difficile dans la souffrance, c'est de s'attacher au caractère de Dieu. C'est dur, hein ? Quand tu es dans la souffrance, tu es un peu brouillé, le caractère de Dieu, tu ne le vois plus. Et dans quel but il est important de s'attacher du caractère de Dieu ? C'est parce que Dieu veut que dans la souffrance, nous reflétions son caractère. Et vous savez que quand on commence à refléter le caractère de Dieu dans la souffrance, sa gloire est en train de se manifester. Christ est notre exemple, notre modèle dans la souffrance. Dieu a voulu que le Fils passe par la souffrance dans Ésaïe 53. Le Fils peut nous comprendre. Le Fils peut nous consoler. Le Fils peut nous accompagner dans la souffrance. Par le Saint-Esprit, nous pouvons manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans la souffrance. Le Fils peut nous comprendre. Le Fils peut nous consoler. Le Fils peut nous accompagner dans la souffrance. S'attacher à cela. Je vais conclure avec « Il n'existe pas de foi non éprouvée ». Tout le long de la Bible, nous pouvons observer ce principe. Personne ne court après la souffrance. Je ne cours pas après la souffrance. Cependant, Dieu nous enseigne à plusieurs reprises que c'est son école. Les épreuves ne devraient pas nous paraître étranges à la vie chrétienne. Hein, des fois, ça peut nous paraître étrange, mais ce n'est pas le cas. Elles sont là pour que Dieu manifeste sa grandeur de différentes façons. Alors quand vous êtes en pleine souffrance, là, ça, on ne l'entend pas du tout. C'est une réalité. Mais Dieu veut faire ça. Et c'est ce que Pierre enseigne. Je vous laisserai avec ce beau passage. Bien-aimé, il nous parle à chacun d'entre nous. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive. Il est en train de vivre des souffrances terribles. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez eue aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ce n'est pas des paroles d'hommes là, hein. C'est la parole de Dieu qui est en train d'enseigner. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que Christ, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. La parole de Dieu arrive dans nos cœurs et nos vies. Lorsque la parole de Dieu arrive dans nos cœurs et dans nos vies, les épreuves viennent aussi comme le moyen, j'ai noté, prévu par Dieu pour que ses enfants grandissent spirituellement et entrer dans cette ressemblance avec le Christ. Si vous avez déjà vécu la souffrance, et vous avez tous vécu la souffrance à des degrés différents, on n'est pas là pour se comparer. Hein. Ma souffrance n'est pas comme ça, ah toi t'as pu souffrir comme moi, on s'en fiche de ça. En fin de compte, des fois on veut comparer nos souffrances, mais non. Il n'y a pas une souffrance plus que l'autre. Si l'autre il est en pleine souffrance pour ça, qui paraît pour toi, pour lui c'est ça. Et pour moi ça peut être autre chose. Donc il n'y a pas de comparaison de souffrance. Quand on vit dans la souffrance pour différentes raisons, Dieu est en train de faire ce processus de transformation dans nos cœurs. Et quand vous revenez un peu en arrière, vous voyez comment Dieu vous a déjà émondé. Et ça, c'est l'objectif de Dieu. Vous savez, dire le dimanche, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est très bien. Mais nous ne savons pas si nous croyons vraiment en un tel Dieu jusqu'à ce que le lundi, on est confronté à des expériences où Dieu nous semble plus si puissant que ça et plus du tout aussi paternel que ça. Ce matin, on peut ça. Demain matin, vous ne savez pas ce qui peut arriver en 24 heures comme épreuve terrible dans nos vies. L'épreuve et la souffrance ont leur place et leur raison d'être dans le plan de Dieu, même si nous avons du mal à comprendre. C'est une réalité. Mais vous savez, il n'y a rien de durable dans notre vie chrétienne, si ce n'est la grâce de Dieu. Et je conclue avec cette petite phrase. Elle vaut ce qu'elle vaut, de ce que j'ai écrit. Dans la souffrance, la grâce de Dieu est là pour nous apprendre que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire pour les enfants de Dieu. Par contre, la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu, ça c'est oui. C'était la leçon du jour pour Moïse et pour nous. Amen. Mais c'est la louange pour conclure.